Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite aide de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Salut!
Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Oui, ça va, on est à Lille!
Oui! Depuis dimanche.
C'est un épisode, du coup, spécial aujourd'hui. Puisque on ne va pas faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu ce mois-ci, on va vous parler de notre séjour à Lille et plus particulièrement au festival Série Mania.
Oui, ça va être trop bien. Enfin, c'est trop bien, c'est en cours quoi.
Ça a déjà commencé.
Si vous avez remarqué, Damien n'est pas là.
Damien n'est pas là, Damien est resté à la Bretagne.
À la Bretagne.
Personne ne dit ça comme ça.
À la maison.
À la maison, pour s'occuper de...
De la poterie.
De la poterie. Voilà, chaque jour, on prendra un petit peu la parole pour vous raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a fait la veille. Et donc, on va commencer aujourd'hui par ce qui s'est passé le lundi 20 mars. Notre première journée à Série Mania.
Oui. C'était une petite journée.
Est-ce que tu veux parler d'abord pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est Série Mania?
Bah, Série Mania, c'est un festival de séries. Le projet a vu le jour en 2010, mais je crois que la première édition, c'était en 2018.
La première édition lilloise, ouais.
Ouais. Du coup, ça fait. C'est la cinquième édition.
Oui.
Avec le Covid, ça aurait dû être la sixième, mais du coup, c'est la cinquième édition. Durant cette grosse semaine, en fait, vous pouvez voir en avant-première des séries internationales, des séries françaises, et également rencontrer des acteurs, des réalisateurs, réalisatrices, acteurs-actrices, bien évidemment. Il y a des masterclass. Et le thème de cette année, c'est, le thème général sur le festival, normalement, c'est les génériques de séries. Donc c'est pour ça que l'expo est dédiée à ça et on a une ou deux petites rencontres à ce sujet d'ailleurs.
Donc hier lundi 20 mars, notre première journée, on n'a pas été voir des avant-premières de séries.
Non.
On s'est échauffé en assistant simplement à des rencontres,
et une masterclass.
Des masterclass. Ouais. La première c'était les séries ont-elles du style avec comme invité incroyable Hugo Bardin.
Alias Paloma,
qu'on avait adoré l'année dernière dans Drag Race France, la grande gagnante. Et aussi Stéphane Fonkinos, qui est un directeur de casting et réalisateur, et qui sont venus donc nous parler du style, principalement vestimentaire, de la mode dans les séries. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette,
J'ai trouvé ça sympa parce qu'il y avait des séries... qu'on avait un peu en commun, surtout avec Hugo Bardin, du coup, tout ce qui était Sex and the City... ils ont aussi parlé de l'évolution du créateur de Sex and the City vers Emily in Paris, qui est un peu une catastrophe, ce genre de choses.
Emily in Paris s'est faite vraiment défoncer.
Ouais. Et oui, donc il y avait pas mal de séries que je connaissais pour Hugo, dont il a parlé. Et après, en fait, petit à petit, on est parti sur des séries un peu plus vieilles, du coup, parce que c'est son interlocuteur qui s'est mis à parler des séries qu'il appréciait. Et donc là, on est parti vers des séries que je connaissais beaucoup moins. Et que ça m'a donné un peu envie de découvrir, mais en même temps, elles ont l'air un peu barjot, un peu barrées, ces séries-là. Donc, à voir si j'aurais envie de les mettre.
Parle de la série Absolutely Fabulous.
Oui, voilà, par exemple.
Qui s'appelle Abfab, pour les gens qui savent.
Ouais.
La série britannique, j'ai son Wikipédia sous les yeux, ça a duré pendant 10 ans.
Ouais, bah tu vois, inconnu au bataillon, alors que pourtant je pensais avoir une bonne culture de série, et non. Par contre, ils ont parlé de Pause, que j'ai pas vue.
Ah oui.
Et clairement, je pense que je vais rentrer et je vais la regarder, parce que ça m'a vraiment donné très 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 envie.
Moi aussi.
Mais sinon, pour la conférence entière, j'ai trouvé ça cool. On voit bien qu'ils avaient préparé leur sujet.
Ouais.
Ils savaient déjà de quoi ils allaient parler. C'était agréable. Il y a eu pas mal de mini moments où on nous montrait des extraits de séries, donc ça accompagnait bien. C'était pas, on s'est pas ennuyé. Enfin, moi, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et les deux ensemble, ça matchait bien. Avaient un humour cool. Et Hugo est super marrant et moi je le trouve, c'est vraiment une personne que j'admire énormément et c'est quelqu'un que j'adore suivre en fait.
C'était la première fois qu'on le voyait en Hugo,
ouais,
et pas
ouais.
En Paloma.
Et il était quand même trop stylé, faut pas se mentir. Quand, c'est sûr que quand Stéphane Fonkinos nous a dit je suis avec quelqu'un qui incarne notre sujet, bah oui c'était ça, hein. Clairement on va pas se mentir, Hugo Bardin est incroyablement stylé et trop cool. Moi j'ai trop envie d'être pote avec lui, on a tous envie d'être pote avec lui.
J'ai beaucoup aimé la petite interlude quand ils ont expliqué pourquoi ils ne parlaient pas de séries françaises.
Oui.
Quand Hugo a raconté qu'il a été costumier dans des séries françaises, des séries TF1 notamment.
Exemple Sam.
Et on lui a clairement dit, ne fais pas de folie, il faut que les personnages aient des costumes totalement banals pour que... Alors comme il a dit, et c'est un vrai terme dans le milieu de la télé encore aujourd'hui, la ménagère, la fameuse responsable des achats de moins de 50 ans, la cible prioritaire de la télé...
Se reconnaissent.
Pour que ces femmes-là se reconnaissent. Donc c'est un peu anti-rêve, il n'y a pas le droit de rêver, et surtout on te ramène bien à ton statut presque prolétaire de ta situation sociale. Enfin, ça raconte beaucoup de choses, juste cette petite anecdote, et aussi ça racontait pourquoi ils n'ont pas parlé de séries françaises. Et ça c'était cool. J'ai bien aimé aussi une personne dans le public a dit « Pourquoi vous parlez surtout du style des femmes ?» et pas du style des hommes. Et là, Hugo en a profité pour parler de Peaky Blinders, où effectivement, les personnages sont hyper stylés.
Mais du coup, ça renvoie à une masculinité toxique, quoi. Donc,
voilà.
D'où le fait qu'ils ne pouvaient pas en parler. Mais on ne va pas se mentir, ils n'ont pas parlé de Downton Abbey, et voilà, mon cœur s'est brisé.
C'est vrai, il y a des séries qui ont été oubliées. Après, on peut pas, comme ils disaient, ils pouvaient pas tout évoquer dans le temps imparti. C'est vrai qu'il y a eu assez peu de séries historiques, on va dire, de séries historiques. Si, il y a eu justement cette... Les Rois Maudits, la seule série française dont on a parlé. Vraiment, on a découvert à ce moment-là que la France avait inventé Game of Thrones.
On a découvert un mème, surtout la meuf qui dit qu'elle est toujours derrière son... Oh mon Dieu.
Je suis derrière le pylône, comme toujours.
Comme toujours.
Oui madame, j'étais derrière la colonne, comme d'habitude.
Et sinon, merci à la personne du public qui a posé cette question à la fin en reliant l'animation. Donc japonaise principalement et également les dessins animés également aux séries parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais ça fait également partie du monde des séries. Moi et Damien on est fans, on regarde beaucoup d'animés et du coup Hugo a pu partager aussi le fait qu'il avait regardé par exemple les Cat's Eyes ou des choses comme ça et c'est aussi un lien très important avec tout ce qui est costume, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'inspiration entre Sailor Moon, les Cat's Eyes ou d'autres choses qui donnent de l'inspiration pour les costumes. Et c'était une très bonne question. Merci à cette personne. Je crois que c'était une dame.
On va passer ensuite à la deuxième rencontre qu'on a fait. C'était une lecture de scénario, en l'occurrence le scénario de Bouchon, une série écrite par Eleanor Cost qui arrivera, on ne nous a pas indiqué quand.
Non, faudrait qu'on regarde.
Oui.
Plus en détail.
Et donc c'était vraiment très intéressant, très inédit comme manière de... Enfin, j'avais jamais vu ça, assisté à ça. C'était interprété non pas par Eleanor Cost, mais par 6 comédiens et comédiennes talents de Adami Cinéma. Et chacune et chacun interprétait les rôles du scénario. Et aussi, il y avait un
narrateur
qui s'occupait de la narration du scénario parce que
remise en contexte.
C'était un peu une pièce de théâtre où il y aurait quelqu'un qui raconte en fait tout ce qui se passe. Et donc finalement, c'était sur une scène, il y avait ces 6 personnes qui étaient assises devant nous et qui avaient le scénario entre les mains et qui le lisaient. Et donc c'était vraiment en fait les lectures de scénario, moi je savais que ça existait comme ça. Mais c'est visiblement assez rare de le faire en public.
C'était la première fois à Sérimania.
Oui, en plus. Qu'est-ce que tu as pensé de cette lecture alors ?
On va parler de la lecture en elle-même déjà. Je trouve le principe super intéressant.
Oui.
Ça permet de découvrir une série d'une autre façon. Et moi, à la fin, j'ai vraiment envie de regarder cette série.
Ouais, évidemment.
Pour ce qui est après des acteurs et des actrices, je les ai trouvés vraiment cool. C'était pas juste utilisé. C'est marrant parce qu'ils sont du coup assis sur des chaises. Ils sont pas là pour jouer, ils sont là pour une lecture, mais c'est une lecture vivante. Voilà, c'est ça. Ça serait le mot que j'utiliserais, c'était vivant. Et vraiment, j'étais triste avec eux quand ils lisaient des moments tristes. J'ai beaucoup rigolé parce que c'est une série très très marrante aussi qui aborde également des thèmes difficiles. Enfin, moi j'ai été émue en fait par ce moment, c'était vraiment sympa. J'étais un peu déçue qu'il n'y avait pas eu cet échange avec le public qui nous disait à la fin. En quoi Fanny Sidney les a aidés aussi, parce que c'était elle qui était sous la supervision qui les a préparés pour ça. Qu'est-ce qu'elle leur a dit, comment ça se prépare en fait une lecture, c'est des questions que j'aurais aimé leur poser, et que malheureusement la lecture s'est finie et tout le monde est parti directement, donc c'était là-dessus un petit point un peu décevant, mais sinon j'ai vraiment envie de regarder la série, ça m'a donné clairement envie.
Je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord aussi sur le fait que ça a manqué un peu d'interactivité à la fin. Si vous voulez, même Mathilde, je crois que tu ne connais pas Eleanor Coste, elle a sorti sur YouTube un court-métrage que j'avais trouvé bouleversant qui s'appelait Fantasme. Et encore plus pour cette raison, j'ai envie de voir Bouchon.
Ouais, et puis vraiment, au niveau de l'écriture, on est dans quelque chose que j'aime beaucoup. On est sur une écriture très crue. On est sur du vrai, en fait, dans une famille. Ah, la famille est un peu dysfonctionnelle, on va pas se mentir, mais quelle famille ne l'est pas? C'est ça un peu la question que je me pose des fois. Et on est vraiment sur des gens qui échangent, qui parlent vraiment. On n'est pas sur de la bienséance, on va dire les choses, mais d'une façon parce qu'il ne faut pas trop choquer ou ce genre de choses. Et là, on est sur... moi, des fois, quand je les écoutais, j'avais l'impression de m'entendre parler avec ma sœur. Des fois, on se parle comme ça. Et c'est rafraîchissant, en fait.
Maintenant, j'ai envie de voir comment ce sera mis en scène, parce que c'est ça aussi le truc. L'histoire, on l'a entendue entièrement. Donc maintenant, il faut... Ça peut être que intéressant de voir comment on passe d'un scénario qu'on nous a lu à une série entière, aboutie. C'est bon pour cette première journée ?
On parle pas de... grâce à Série Mania, en fait, sur leur site, vous pouvez avoir accès à des séries. Et donc là, en fait, on n'a pas été voir en avant-première, mais on a pu regarder à l'appart Sous Contrôle, qui est une série française qui fera en tout la saison 1, 6 épisodes de 30 minutes. Et on a vu 3 épisodes. Je te laisse un peu en parler. C'est une série que tu avais envie de voir, mais malheureusement, elle n'était pas rentrée dans le planning.
Oui. Ça parle d'une femme qui est engagée dans l'humanitaire. Et le président de la République l'appelle un jour pour lui proposer d'être ministre des Affaires étrangères. Elle accepte. Et hasard de la vie, il y a des otages français qui sont capturés au Sahel. Il y a une demande de rançon et donc, à peine arrivée à son nouveau poste, elle doit gérer cette situation
de crise.
De crise, carrément. Et en plus, on lui fait comprendre qu'il y a plein d'autres trucs à gérer. Évidemment, parce que la vie d'un ministre ou d'une ministre, c'est pas du tout tranquille. Mais elle s'investit beaucoup dans cette crise à gérer au détriment du reste. Et donc on lui fait rappeler que il faudrait pas non plus qu'elle en fasse trop avec ces histoires de d'otages. Et donc en fait ça, pendant les 3 premiers épisodes, on la voit véritablement galérer et apprendre aussi les rouages de la diplomatie française et de la vie politique française. Et c'est vraiment bien interprété par Léa Drucker, qui donc interprète ce rôle principal. Et donc c'est assez drôle. J'ai vraiment bien aimé ces 3 épisodes. Dès que ça sera dispo... on a dit que c'était sur Arte ?
Oui, ça sera sur Arte. On ne l'avait pas dit, mais ça sera sur Arte.
Donc ce sera sur Arte. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu ce que je pensais voir, parce que c'est une comédie. On n'a pas dit que ça, c'était une comédie. Donc c'est surtout drôle, mais il y a un vrai fond politique premier degré derrière. Donc c'est vraiment ma cam et j'ai beaucoup aimé.
Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi, ça m'a beaucoup fait penser à Parlement, bien évidemment.
Oui c'est vrai.
J'ai noté cette petite citation que l'héroïne répète souvent, qui dit « Toujours privilégier l'hypothèse de la connerie à celle du complot ». Je trouve que c'est une phrase très amusante.
C'est vrai.
Et puis l'interdiction de boire qu'elle donne à son directeur de cabinet pour pas qu'il... en fait, il peut pas boire parce que s'il boit, il va aller aux toilettes, et s'il part et qu'il va aux toilettes, le monde peut changer ou des décisions peuvent se prendre sans lui. Ah non, c'est des petites situations qui s'enchaînent très très bien et c'est très marrant.
Je partage totalement cet avis. Cette fois, c'est bon ?
Ouais, c'est bon. Du coup, on va se retrouver pour le next épisode.
On se retrouve demain pour vous raconter la suite de notre séjour à Série Mania.
Bye.
D'ailleurs, donc, quelle série marquante, quelle première série marquante revient tout de suite? Charmant. Alors, et Sex and the City, que je regardais après en cachette, et mon grand-père est passé derrière comme ça. J'espérais avoir un échelon, peut-être. Dans Charmed, est-ce qu'on peut demander quelle était la préférée des sœurs?
C'est la seule dont le style a survécu, d'ailleurs. Parce que les autres, franchement, je sais pas s'il y en a qui ont revu Charmed récemment, mais je l'ai fait les 8 saisons. J'étais au chômage. Et ben, c'est mal aux yeux.
Est-ce que ça va, Mathilde?
Ça va.
Pour ce deuxième jour à Sérimania?
Oui, deuxième.
Alors aujourd'hui, on a enfin commencé à regarder des séries. On en a vu deux.
Ouais, petit, on commence doucement. On commence par les conférences, tranquille. Après, on va avoir deux trucs. Après, c'était des. On a quand même eu un gros morceau sur les deux. Petit morceau, un court, et un gros morceau.
Et un gros morceau pour terminer la journée. Le petit morceau, c'est une série courte. Dans la catégorie format court, puisque ce sont des épisodes de 15 minutes. Il y en a 8 en tout. On a pu en voir 3. Le nom de la série, c'est A Strange Summer. C'est une série finlandaise créée par Lauri Matti Porpei, qui était présent. Ça, c'était trop bien de l'entendre un peu parler, mais on vous racontera ça juste après. Alors, le site de Sérimania dit que la série est dispo en France sur la plateforme ILE. YLE. J'ai essayé, je n'ai pas du tout trouvé cette plateforme.
Et t'as regardé sur leur plateforme ?
Sérimania Plus ? Ah non, ouais. Je vais le faire. Alors, un rapide résumé de cette série. Il s'agit de Minna, une jeune Finlandaise de 21 ans qui vit dans sa petite ville de naissance. Elle est un peu perdue dans la vie. Et au cours d'un été, sa meilleure amie Aino rentre après avoir passé 2 ans en voyage. Et les deux vont commencer à faire des trucs ensemble jusqu'à faire des trucs moins cool, c'est-à-dire cambrioler des maisons. Donc c'est entre un drame et un thriller un peu. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mathilde, de A Strange Summer?
Déjà oui, j'étais contente qu'on puisse rencontrer le créateur, c'était cool. Mais la série en elle-même, je me suis pas ennuyée pendant les épisodes. Parce que c'était un peu particulier, quand même, c'était lent. On aurait pu dire cinéma d'art et essai. Là, c'était un peu au mode aussi série art et essai. J'avais l'impression que c'était un peu dans ce mood-là. Mais j'ai vraiment apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, le gros plus, évidemment, c'était d'avoir un peu l'explication de la série avec le réalisateur qui était là. J'ai trouvé les actrices vraiment très, très... très douée, leur duo fonctionne très très bien. Le gros point fort de la série pour moi, c'était la musique. Elle m'a mis vraiment dans un mood particulier. C'est une musique vraiment angoissante, de thriller. Et à chaque fois que la musique démarrait, dès qu'elle se met à faire un peu des choses illégales, genre rentrer dans une maison sans y avoir le droit ou ce genre de choses, on est vraiment en mode vraiment suspense. Et pour le coup, ça m'a vraiment donné envie de voir la suite. J'aimerais bien découvrir la fin de cette série, parce qu'en plus, le réalisateur avait l'air de dire qu'à partir de l'épisode 4, ça prend un tournant vraiment, ça change presque de série et ça part dans autre chose. Donc j'ai hâte de voir ce tournant.
La série devient aussi chaotique que le script, que la narration est déconstruite. Donc ça, c'est très intrigant, parce que pour l'instant, c'était très linéaire.
À part le premier épisode qui commence par la fin de l'épisode 3, ce qui était plutôt amusant, parce que comme on a fini par l'épisode 3, on a vu les 3 premiers, on avait l'impression qu'une boucle était bouclée. Oui. En vrai, la série aurait même pu s'arrêter là.
Il y aurait eu pas mal de non-dits.
Oui, pas mal de non-dits, mais ça aurait clairement pu s'arrêter là. Et même lui, il disait qu'on avait l'impression que ça aurait pu être une fin. Et que c'était le but, en fait, de faire une espèce de boucle pour commencer après sur cette 4e épisode qu'on n'a pas vu, malheureusement.
Ouais. Quand on regardait la série, je me suis dit, c'est un mélange de The Bling Ring et de Spring Breakers, qui sont deux films que j'ai vus, que j'ai pas vraiment aimés. Et là, non, j'ai préféré. Comme toi, la musique, je l'ai trouvée trop, trop bien. Elle était lourde. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le créateur de la série qui a composé la musique en une semaine. Il nous a raconté que c'était très chaud pour lui, qu'il a très peu dormi et que du coup, ça l'a mis dans un mood vraiment pas ouf ou vraiment dark, et ce qui a sans doute amené un peu de cette ambiance-là dans la musique. Il a parlé aussi un petit peu de sa mise en scène, que moi j'avais noté comme esthétiquement très très simple. Il n'y avait que des lumières naturelles quasiment. Donc il a admis qu'il y avait une banalité volontaire dans sa mise en scène. Il a eu un terme très rigolo, mais en même temps lourd de sens.
Douloureusement finlandais.
Voilà.
Ouais, il disait que dans les productions finlandaises, ils avaient l'habitude de montrer des choses plutôt cool, belles. Mmh. Et là, lui, il voulait pointer sa caméra sur la banalité, quelque chose de vraiment le plus banal possible.
Ouais, et qu'il a aussi volontairement mis des moments très apaisants, mais pour dénoter avec le chaos qui est narré dans la série.
Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est le mood dans lequel il était quand il a créé la série. Il disait que lui, il était au chômage et que cette série, c'était un peu une espèce de désillusion aussi de la vie, ouais, et d'invisibilisation de la jeunesse. Et en fait, il y a le tournant dans cette série où du coup, ce qu'il appelait un peu un agent, les filles deviennent des agents du chaos. En fait, chaque acte qu'elles font, c'est par vengeance, en fait, si on réfléchit bien.
Ben, c'est un peu cette jeunesse désabusée des années 2010-2020 qu'on n'écoute plus, qu'on méprise et en l'occurrence, ces deux jeunes ont décidé de faire le chaos pour être entendus, pour se sentir vivantes, pour exister. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, il y a d'autres moyens de se faire entendre. Mais voilà, très hâte de voir la suite, j'ai très envie de voir la suite.
Je trouve aussi que l'invisibilité est aussi faite vis-à-vis des deux persos. Elles sont meilleures amies et pourtant on a l'impression qu'elles ne se voient pas l'une envers l'autre. Et c'est plutôt amusant en fait de voir qu'elles sont si proches et pourtant elles n'arrivent même pas à se voir.
Il y a beaucoup de non-dits dans leur relation.
Ouais, c'est ça.
On va parler maintenant de Nolly, la seule série diffusée intégralement pendant le festival, puisqu'elle ne compte entre guillemets que 3 épisodes de 60 minutes.
Et la seule série qui ne concourt dans aucune catégorie également, oui. C'est un plaisir.
Nolly, c'est une série britannique créée par Russell T. Davis, qui compte donc 3 épisodes de 60 minutes. C'est dispo, pas en France malheureusement, c'est un biopic de l'actrice Nolly Gordon, qui est une ancienne icône de la télévision britannique du XXe siècle, qu'on ne connaît pas du tout en France.
Non.
Pendant la série, on la découvre au sommet de sa gloire dans le soap qui s'appelle Crossroads. Et donc, on la suit jusqu'à la fin de sa vie. Le sujet principal de la série, c'est au moment où elle se fait virer alors que c'est la star principale de ce programme. Donc, c'est 3 épisodes très intenses, très denses, mais vraiment très passionnants.
Ouais. c'est une super série. Moi, j'avais jamais entendu parler de Nolly avant. Et là, on la découvre et en plus, t'as oublié de dire par qui Nolly était interprétée, qui est quand même un gros point à souligner.
C'est Helena Bonham Carter.
Moi, j'ai adoré, vraiment. J'ai passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer. Le premier épisode est peut-être un peu long à démarrer parce que c'est l'introduction, normal, ça met un peu plus de temps, ça pose les bases. Comme
et
on
en
dit.
Même temps, il y a un rythme tel,
oui.
Ça ne s'arrête jamais. C'est à 100 à l'heure pendant tout l'épisode.
Et l'épisode 2, mon préféré, je pense. Il se passe des choses incroyables dedans. Et puis après, le dernier qui clôture cette histoire qui m'a presque arraché les larmes. J'étais à deux doigts de pleurer. Vraiment très, très difficile pour moi. Un super biopic. Bien évidemment, c'est romancé. Hein. Ils le disent dès le début des épisodes.
Oui.
Ça fonctionne vraiment bien. Et je pense que c'est un très, très bel hommage à cette personne.
Oui.
Et il y a des moments mémorables. Il y a le moment où, du coup, Nolly se retrouve dans un bus avec des inconnus. En fait, elle a l'habitude d'aller se balader avec son meilleur ami, si je peux dire, qui est aussi un des acteurs de la série. Et elle monte dans un bus et en fait, tout le monde la voit et tout le monde la connaît, en fait. Hein. Tout le monde allume sa télé tous les soirs pour la voir, donc bon. Et les jeunes femmes du bus commencent à lui parler jusqu'au moment où un mec, un homme l'interpelle et lui dit « Bah moi, je vous connais pas, je regarde pas ça, c'est un truc de femme. »
Qui se vante de pas la connaître, alors que ça ne sert à rien de se vanter de ça.
Et puis là, il y a un monologue où elle lui balance en gros ses 4 vérités à la figure en mode « Comment ça, c'est que pour les femmes, les swaps vous avez votre match de foot, vos bières. » Et c'est un moment vraiment iconique. Enfin, les poils se sont levés sur mes bras. J'étais genre, oh mon Dieu, tout ce qu'elle est en train de lui mettre dans la tête. Et c'est magique. C'est un moment magique. Il y a également un second moment où elle est au théâtre, en train de préparer un show et elle parle avec les autres actrices. Et jusqu'à maintenant, elle leur a jamais parlé, elle leur a jamais ouvert son cœur. Et là, elle le fait et elle leur raconte un peu son histoire d'amour parce que les filles pensent qu'elle est lesbienne parce qu'elle a pas de mari alors qu'elle a un certain âge, qu'elle est seule, oui. qu'elle a pas de famille. Et là, elle leur dit, mais en fait, c'est incroyable quand on est seule, qu'on n'a pas de mari, qu'on n'a pas de famille. Tout de suite, on est invisibilité, on n'existe pas pour la société. C'est incroyable, ça, quand même. Et c'est un super discours aussi. Et là, elle leur raconte son histoire d'amour qui est assez horrible. Et en même temps, toutes les relations sont bonnes à prendre tant que c'est partagé par les personnes en question.
C'est heureux et tragique en même temps, je dirais.
Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, il y a les jeunes femmes qui sont là en disant « Non, mais moi, ça m'arriverait jamais » et tout ça. Et elle leur dit quelque chose de très vrai. Elle leur dit « Mais vous pensez que ça vous arrivera jamais ? » Mais en fait, les hommes sont malins, les hommes sont rusés. Et parfois, ils peuvent vous prendre votre cœur sans que vous vous en rendiez compte. Et ils vous feront faire des choses dont vous ne pensiez jamais que ça arriverait là. Et c'est un moment magnifique.
Il y a des fulgurances, des vrais cris du cœur féministes très engagés qui sont... qui font du bien, en fait.
C'est presque réjouissant, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de dire qu'on ne peut pas... Et en fait, là, on est au cinéma et elle le crie, la salle était pleine, hein, donc il y avait vraiment énormément de monde. Et ça fait super du bien. Parce qu'en fait, cette série, elle parle d'une femme qui a passé toute sa vie... Pour les séries, en fait, elle a passé sa vie à ça. Elle a dédié sa vie à ça. Et en fait, elle devient trop âgée et ils la virent. Ils le disent pas comme ça. Ils disent aussi que c'était une diva, qu'elle avait plein de défauts et tout ça. Mais au lieu de venir lui en parler et d'essayer d'arranger les choses ou de dire, Noli, calme-toi ou j'en sais rien, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de la virer d'une façon horrible, sans préavis, sans rien. C'est vraiment la femme qu'on prend et qu'on jette, quoi. Peu importe qui tu es, de toute façon, tu restes une femme. C'est ça que dit la série, en fait. C'est peu importe que tu es soit Noli, la première femme qui est apparue sur les écrans en couleur du monde entier. Tu n'es qu'une femme. C'est quand même la première femme qui a interviewé le premier ministre anglais à la télé. Mais ça reste une femme. Donc, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Interchangeable. C'est ça que dit la série. Et c'est horrible. Et à côté de ça, Noli, elle se bat. Et elle est incroyablement... je sais pas comment dire, elle est...
Courageuse.
Ouais, courageuse, mais elle donne envie de pas lâcher aussi, tu vois, de dire... Même quand il nous arrive d'un peu des trucs un peu chiants dans la vie, des fois tu te dis, je laisse couler. En fait, elle donne envie de pas laisser couler, en fait. Et c'est vraiment trop bien.
Est-ce qu'on a fini ?
Je pense, oui, vraiment, je me suis épanchée sur cette série, mais énorme coup de cœur pour le moment pour Noli. Et vraiment ravie qu'elle soit passée là. Ouais. Quoi.
On se retrouve demain.
Ouais.
Pour la suite, le troisième jour de Sérimania.
À demain.
À demain.
Good evening, I'm Noel Gordon. Crossroads Motel, can I help you?
No.
Did they say you can't sit in my chair?
Yeah.
Don't.
Miss Noel Gordon!
All good things must come to an end.
They have plans
for the future of the show.
Without you, you're out.
If she goes, we all go.
Don't kill me.
This is Meg we're talking about.
Is it?
Why did they get rid of you, Nolly?
Why did Crossroads sack you? Those men brought me down. They'd singled me out. Do you think I'd let them stop me? I've got plans.
It's you, isn't it?
Yes, I'm afraid it is.
No charge, Nolly.
Bright things ahead, darling. Brightness and joy.
You're going to be a bigger star than him.
Oh, Nolly, you're alive!
I am!
You think you can do it?
Watch me.
On se retrouve pour le troisième jour de Sérimania. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses pour ce mercredi 22 mars. On va commencer, sans plus attendre, avec la matinée qui a commencé avec les...
À 15h.
L'après-midi. Qui a commencé avec les formats courts. On a d'abord regardé une série australienne.
Alors, on s'est pas levé à 15h. Hein. Le matin, on a été dans un musée. Et
on a fait un peu de tourisme, c'est vrai.
C'est ça.
On a commencé ces formats courts avec une série australienne qui s'appelle Latecomers, qui a été créée par Angus Thompson, Emma Myers et Nina Oyama. Et c'est réalisé par Madeleine Gottlieb et Alistair Baldwin. C'est 6 épisodes de 10 minutes. Et malheureusement, il n'y a pas de diffusion française.
Pour le moment.
pour le moment, il y a eu un appel pendant la séance à des diffuseurs français qui voulaient se bouger.
Est-ce que c'est diffusé au Canada, par contre ?
Canada et Australie, effectivement. C'est une série qui est sortie, enfin qui a été créée en 2022. Est-ce que tu veux nous raconter de quoi ça parle ?
Deux inconnus atteints de paralysie cérébrale explorent leur sexualité et leur relation dans cette comédie romantique australienne originale et lumineuse.
Est-ce que tu veux enchaîner avec ton avis ?
Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. On n'a vu que 4 épisodes, donc on est un peu triste parce que du coup, on va peut-être méga galérer à voir la fin. C'est une série qui parle du handicap, de l'amour, de comment on vit son handicap et de la sexualité. Elle essaie de nous rappeler que les personnes qui ont des handicaps sont comme tout le monde. Ils ont des sentiments, bien évidemment, besoin d'amour, et ils ont également de la libido. C'est un thème dont on parle rarement dans les séries. Là, en fait, ce qui est différent, je pense, et ce qui fait que la série est aussi réaliste et aussi incroyable, c'est que du coup, sur les personnes qui l'ont créée, sur les scénaristes, il y a 2 personnes qui sont à elles-mêmes atteintes d'handicap, dont un des acteurs qui joue le rôle de Franck. Et ça rend les choses vraiment réelles, en fait, parce que c'est inspiré de ce qu'ils vivent au quotidien.
Et sincère.
Et sincère, en effet. Moi, j'ai vraiment adoré la série. Les 2 protagonistes principaux sont vraiment... C'est Franck et... Je ne me rappelle déjà plus... Sarah. Il me semble.
Je crois, oui, que c'est ça.
Et ils sont vraiment super attachants. Mmh. On a également, on voit aussi leurs aidants qui sont dans la série des amis à eux, qui sont eux aussi très attachants et qu'il y a toute une histoire qui tourne autour d'eux. Et enfin, moi, c'est incroyablement drôle aussi. C'est très bien écrit. Enfin, je sais pas comment dire de plus, quoi. C'était vraiment trop bien.
Je suis globalement d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi. Et le format court apporte aussi une narration que j'ai beaucoup aimée, où du coup tout va très vite dans les enjeux qui sont posés, et ça fonctionne quand même. C'est vraiment très bien écrit de ce point de vue-là. Je repense à ce jeu de questions-réponses à la fin, où en fait l'équipe était vraiment trop sympa.
Oui, l'équipe était incroyable.
Ouais. Et ces personnes étaient hyper heureuses d'avoir traversé le monde pour présenter leur œuvre. Donc c'était d'autant plus réjouissant et enthousiasmant pour ma part de les voir là.
Ouais, clairement, merci à Sérimania d'avoir sélectionné cette série parce que vraiment elle est top.
On va enchaîner et on a enchaîné immédiatement aussi pendant la séance avec une autre série courte. C'est One of the Boys qui a été créée par Thijs Chokani. C'est une série danoise cette fois. Il est aussi réalisateur. Il y a là non plus pas de diffusion française et c'est bien dommage. C'est 4 épisodes de 15 minutes. Et là, on a eu l'excellente surprise d'avoir le droit de tout voir.
Ouais, alors
c'est trop bien.
Ils disent que c'était une surprise, mais c'est annoncé dans le programme.
Ah!
Sinon, pour le synopsis, alors qu'il participe à un camp de vacances censé faire de lui un homme, l'eau est troublée par un garçon, un récit juste, poétique et nécessaire sur notre rapport à la virilité.
Tous les enjeux de la série sont bien décrits dans ce synopsis.
Ouais, c'est vrai. Pour ce qui est de la série en elle-même, déjà c'est une série young adulte là pour le coup vraiment, oui. C'est une série avec des jeunes, c'est des collégiens qui après le collège vont dans un camp pendant on va dire une semaine et ils font des tests de virilité, il n'y a que des garçons. Et en fait notre héros si je peux dire, son père avait gagné ce camp quand il était jeune. Alors que Lo, il est pas spécialement... C'est pas un stéréotype de la virilité, c'est juste un garçon comme un autre. Et en plus de ça, il découvre qu'il a peut-être un crush sur un autre garçon qui vient de rejoindre le camp, qui s'appelle Axel.
Oui.
Et voilà, c'est l'histoire.
Plus qu'il a un crush pour un garçon, il découvre une attirance pour les garçons.
Ouais, c'est ça.
Qui visiblement, il avait jamais soupçonné ou ressenti jusqu'ici.
Oui, ça.
Donc ça le perturbe, oui, et ça le questionne énormément.
C'est ça.
Et ça tombe un peu au mauvais moment parce que...
Parce qu'il n'y a que des garçons et il y a un peu les gros beaufs de l'école qui veulent à tout prix être virils.
Des vrais bonhommes.
J'ai trouvé que les acteurs étaient très très bons. C'était des ados, la moyenne d'âge était entre 14 et 19 ans. Donc ça, c'était vraiment, ils jouaient très bien. J'ai trouvé ça très poétique. Il y avait beaucoup de jeux de regard, de non-dits, et pourtant on comprenait ce qui se passait. Il n'y a pas tant que dialogue que ça, en fait. Les échanges se font souvent, c'est non-verbal. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Le cadre, c'est juste un camp de vacances, hein. Il n'y a rien de spécial.
Mais c'est très, très beau.
C'est très beau, c'est très réaliste.
Il y a beaucoup de plans bien composés. C'est très apaisant. Et ça correspond à la poésie de la série aussi.
C'est ça. Non, donc moi, j'ai beaucoup aimé. Et les deux acteurs principaux, Axel et Lo, sont vraiment très bons. Ils forment un duo qui fonctionne très bien, je trouve.
Oui.
Et le personnage de Axel, clairement, moi, quand je regardais la série, il est un peu en mode super-héros. Il le fait pas exprès, un super-héros normal. Enfin, en gros, il protège Lo, il le défend. En fait, c'est comme si ils avaient réussi à faire qu'on tombe forcément amoureux de lui, qu'on l'aime forcément, tu vois. C'est un truc incroyable. Et Lo, qui découvre au fur et à mesure de l'épisode et qui grandit pendant ce stage, alors qu'on pensait que c'était en fait un stage de virilité, on se rend compte que peut-être que c'est pas ça le but, c'est peut-être autre chose. Et le titre est très révélateur. One of the Boys, un parmi les garçons, ça peut avoir beaucoup de sens. Enfin, vraiment une très très bonne série. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est le traitement de l'homophobie et de la masculinité toxique dans la série. En fait, c'est traité de façon normalisée. Et en fait, dans n'importe quelle autre série, young adulte, Netflix ou peu importe, en fait, on aurait été trop loin. Et en fait, des fois, la violence, c'est pas obligé d'être très dur visuellement ou pas obligé d'être dans la chair. Là, on nous montre des choses normalisées, mais en fait, c'est aussi violent que d'autres choses. Et j'ai trouvé que là-dessus, on est vraiment sur une façon de montrer les choses qui est très réaliste. Et donc, ça pourrait... En fait, c'est tellement réaliste que ce camp pourrait exister, ces chamailleries pourraient exister avec les différents gamins.
Oui.
Et c'est très bien fait. Et pour finir sur cette série, en fait, on a appris que sur la série, il y avait ce qu'on appelle un médiateur d'intimité. Et c'est rare, c'est une série de courts-métrages de 4 épisodes, il n'y a peut-être pas énormément de budget. Et malgré ça, la personne qui l'a faite voulait que ces ados soient écoutés, pris en charge. Il y avait même une psychologue pendant le tournage au besoin. Vraiment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est tellement bienveillant que... Enfin, ça s'en ressent aussi à l'écran, quoi.
C'est très bien conclu. On a ensuite été voir une conférence qui s'appelle « Si vous avez manqué le début », une conférence chantée qui parle des génériques de séries. C'était animé par Alex Baupin, qui est un auteur, compositeur, interprète et compositeur de musique de film aussi. Et Benoît Lagan, qui est un journaliste spécialisé dans les séries.
Intervention plutôt basique où des gens remontent le temps pour un peu parler des génériques de séries. Ou pendant qu'ils le font, ils chantent évidemment, ils interprètent des génériques de séries, sauf qu'on est vraiment reparti de très très loin. On a commencé avec Belle et Sébastien, j'ai cru que j'allais me tirer une balle.
On a remonté le temps, mais on n'est jamais vraiment revenu.
Ouais, en fait c'est ça, c'était ultra poussiéreux. Je crois que le seul générique où je me suis dit ah ouais, trop cool, c'était Friends, bien évidemment.
C'était plus récent, il n'y a pas eu plus récent que ça.
Ouais. Et sinon, je réfléchis. Après, il y avait des trucs je suis un peu mon bottes de cuir, tu vois, des trucs que je connaissais de nom. Mais... Tu sentais qu'eux, ils s'éclataient sur scène, surtout le journaliste, Benoît Lagan. Il avait l'air ultra heureux d'être là.
Ah, il avait sa meilleure vie.
J'étais super, vraiment, il m'a mis dans un super bon mood. Mais par contre, au niveau musical, ce qui a été joué m'a pas transcendé, j'étais plutôt un peu déçue.
Dommage.
Next.
Un logo, des personnages, on est dans une ambiance. Un générique, c'est aussi comme un bon vieux texte de jour. Un logo, un personnage, mais avec de la musique en plus, et des notes qui nous rappellent le poulet de bébé, le dimanche à 13h30. Une chanson, celle de Starsky et Hutch, et des chevaliers au grand cœur qui ne perdent rien.
On va passer au dernier gros morceau de ce mercredi 23 mars. C'est la série qui s'appelle A Thin Line, qui concourt au Panorama International. C'est une série allemande qui est sortie en 2023. qui compte 6 épisodes de 50 minutes. Ça a été créé par Jacob et Jonas Weidman et on retrouve au scénario Stéphanie Rennes. Je te laisse raconter de quoi ça parle.
Jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver la planète ? Dans ce thriller nerveux, deux jeunes sœurs jumelles activistes prônent la désobéissance civile, voient leur union mise à mal face à leurs choix éthiques respectifs et la tentation du radicalisme. C'était une série en 6 épisodes d'environ 50 minutes. On a vu l'épisode 1 et 2.
Yes, et avec j'ai oublié l'équipe. De dire que ça sortira cette année sur Paramount+.
Oui.
Qu'est-ce que t'en as pensé de cette série ?
J'ai trouvé que vraiment pour le coup on était sur une série, on sent que c'est une série allemande, on va pas se mentir, on est vraiment dans quelque chose de sombre, de noir, et sur le coup quand j'ai lu le résumé, dans ma tête je m'étais dit ouais ça va pas trop me plaire, je vais peut-être m'ennuyer, c'est pas le genre de série que j'apprécie, enfin tu vois j'y suis pas allée reculons mais je me suis dit voilà, et finalement c'est passé plutôt vite. J'ai beaucoup aimé le générique. Il m'a marqué. Il fait 30 secondes, je crois.
Je mets dans l'ambiance, en fait. Ouais. Parce qu'il est brut.
Et l'histoire fonctionne très bien. Ça part dès l'épisode 2. On est déjà dans le feu de l'action. Enfin, l'épisode 1 est bon épisode introductif. Dès le deuxième, on est quand même dans le feu de l'action. Et on se demande vraiment jusqu'où ça va aller. Après, ma question, c'est 6 épisodes au total. Je vois pas ce qu'ils ont à raconter de plus. Parce que j'ai l'impression qu'ils en ont déjà beaucoup dit dans les premiers, tu vois.
C'est vrai que là, en ayant vu que les deux premiers, on se dit peut-être qu'en 4 ou 5 épisodes au total, ça pourrait suffire.
La question est jusqu'où peut-on aller pour défendre nos idéaux ? Est-ce que le terrorisme peut être une réponse ou non ?
Et comme l'a dit l'équipe technique à la fin, et surtout une des actrices qui jouait une des sœurs, qui était là sur place, en fait, il n'y a pas de réponse manichéenne. C'est très gris, finalement. La série nous dit, dans les deux premiers épisodes, il n'y a pas vraiment de choix à faire.
Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cette série, qui parle énormément de hacking et de code, c'est que c'est traité d'une façon très intelligente.
Ouais.
C'est très bien filmé, il y a eu de la recherche. C'est pas juste, tu vois des gens taper sur des claviers et ça n'a aucun sens. Non, non, vraiment, c'était réaliste. Ce qui se passe, c'est réaliste.
On demandera
d'avenir. Les lieux où elles vont, ce qu'elles font, genre quand elles détruisent leur ordinateur, tout ceci est réel, en fait. C'est probable. C'est pas un truc de science-fiction. Ils te montrent vraiment des choses réelles que des hackers, aujourd'hui, pourraient faire.
Et j'en viens, du coup, à la mise en scène, qui est aussi... très réaliste. Et en fait, il y a tous les effets qui amènent du réalisme et du stress. C'est très tendu. La musique est archi tendue. De ce point de vue artistique, c'est une très belle réussite. Et c'est pour ça que tu disais que c'était très allemand, parce que voilà, on sait maintenant, on sait avec les plateformes que les séries allemandes sont très très fortes pour nous mettre en tension constante. Et surtout, vu la brutalité du récit, on se dit qu'il peut arriver un truc fou
à tout
moment. On se dit à demain.
À demain.
On est jeudi 23 mars, c'est l'avant-dernier jour de Sérimania, c'est trop triste. Et en même temps, notre sommeil s'en réjouit d'avance. On démarre sans plus... Non, comment ça va ?
Ça va, ouais, je commence un peu à fatiguer aussi. Mais pourtant, on fait rien à part manger, regarder des séries et marcher. On se tape un petit... On marche pas mal quand même. Mais on fait pas incroyablement de choses, mais on se couche tard et on se lève tôt. Et on regarde des séries et tout, et le rythme, ouais, c'est...
C'est ça, la vie des festivals. La première fois que le gars fait ça. Bref, on commence sans plus attendre notre journée avec la nuit des comédies qui a commencé ce matin à 10h avec une série qui s'appelle Everyone Else Burns. C'est une série britannique qui est sortie en 2022, qui contient 6 épisodes de 24 minutes. C'est créé par Dylan Maple Toft et Oliver Taylor, et c'est réalisé par Nick Collette. Et je ne crois pas qu'il y ait de diffusion française actuellement.
Non.
Donc, impossible de voir la suite en France actuellement pour l'instant.
Pourquoi ?
Est-ce que tu veux nous raconter de quoi ça parle ?
Évidemment. Une famille membre d'une secte chrétienne persuadée que l'apocalypse est proche voit son monde s'écrouler quand leur ado décide d'entrer à l'université totalement barré. Totalement barré, c'est la série, hein, c'est pas...
Pas l'université.
Pas l'université.
Ah ouais, c'était pas fini ? Pardon.
Ah si, c'était bon.
Tu vois, je m'en étais pas rendu compte que c'était une secte. Moi, je pensais que c'était vraiment une sorte de pratique extrême du christianisme. J'avais pas compris que c'était une secte.
Quand même, dès les 30 premières secondes, si quelqu'un est dans une église normale et fait ça,
Du coup, je comprends.
Comprends la série.
Non, j'avais compris la série, mais je me rends compte que c'est moins clivant. Vu que c'est une secte, tout de suite, les sectes, c'est un peu nos limites avec les sectes. On prend le christianisme classique, on le met à 8000%, et voilà, j'avais pas compris que c'était
c'est
une secte.
C'est pour ça que quand on en a parlé après la séance, je t'ai parlé d'autres sectes en plus.
Je n'ai pas réagi.
Ok. Coup de cœur de la matinée, the best, quoi. Vraiment, c'est ma preuve de préf. Une série anglaise comme on les aime. Vraiment, c'est trop bizarre de dire ça à chaque fois, mais les séries anglaises, elles sont ce petit truc qui, moi, me font... Je sais pas. Voilà, elles m'embarquent. Et là, elles m'embarquent dans de l'humour incroyable. Dès le début, ça part en quatrième vitesse. Le père de famille qui réveille sa fille en disant « C'est l'apocalypse, on va tous crever. » Et du coup, sa fille prend son sac à dos et ils partent tous en courant. Et le mec, il dit « Ah, c'est bien, on a mis 2 heures pour venir ici. » En fait, c'était un échauffement en cas d'apocalypse. Vraiment... incroyable.
L'intro est extraordinaire.
Et on suit ce petit groupe, cette petite famille... C'était vraiment... Moi, j'étais mort de rire. J'ai juste écrit cette belle phrase qui dit « Le vrai café, c'est meilleur, mais vivre dans la peur, c'est plus facile. » Parce que, bien évidemment, le café est une drogue pour eux et du coup, interdit dans cette secte. Autant dire que je ne pouvais pas en faire partie.
Donc, ça présente, ça présente l'absurdité extrême de cette communauté qui ne tolère aucun écart. Donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite.
J'ai hâte aussi. Le générique est très très amusant.
Très, très
c'est juste des ciels avec du rose, du bleu, des couleurs incroyables. J'ai beaucoup aimé le générique. Le titre parle de lui-même. Hein. Le titre de cette série est vraiment incroyable.
Tout le monde brûle.
C'est ça. Et on en est là parce que vraiment, c'est incroyable. Pour l'instant, c'est la série que j'ai mis le plus haut en prix du public. C'est mon coup de cœur.
Yes. On reste au Royaume-Uni, avec une deuxième série qui concourt dans la compétition comédie, c'est Romantic Getaway, une série créée en 2022 qui compte 6 épisodes de 30 minutes. On a pu voir les deux premiers. C'est créé par Ramesh Raghunathan et Benjamin Green et c'est réalisé par Sean Wilson. Et c'est diffusé nulle part en France.
Sur Sky, mais je ne sais pas
sur
si
Sky,
c'est...
Mais non, Sky, c'est une chaîne britannique. En France, ça n'existe pas. De quoi ça parle ?
Ce Bonnie and Clyde moderne et original suit un couple qui a désespérément besoin d'argent pour payer sa fécondation in vitro. Alors, dit comme ça, juste
c'est
en lisant...
C'est pas ouf comme résumé.
Non, tu rigoles, mais juste en lisant ce résumé, moi, quand je l'avais lu, et je m'étais dit « Ah, ça a l'air trop stylé !» Parce que voilà, Bonnie and Clyde, in vitro, fécondation, tu vois, ça aurait pu être vraiment un truc vraiment décalé.
Sur le site, il y a un autre résumé qui est plus explicite.
Ouais, moins décalage.
Désirant un bébé à tout prix, Allison et Deacon délestent Alfie, leur patron véreux, de 500 000 livres pour payer leur prochaine fécondation in vitro. Avec une Alice dopée aux hormones, il ne leur reste plus qu'à éviter de se faire prendre. C'est
ouais.
Un peu plus ce qui est raconté dans la série.
Ouais. Dans tous les cas, un peu déçu par cette série, beaucoup plus dramatique que comique de mon point de vue. On est vraiment sur des thématiques, moi, qui m'ont plus... on est sur un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant, qui n'a pas assez d'argent pour se payer une fécondation de vitro.
En vrai, c'est triste.
Qui décide, du coup, de voler leur patron, qui est un gros connard, on va pas se mentir. Donc, en vrai, on a un à foutre qu'il le vole, mais voilà. Moi je trouve ça triste et puis même on suit toute la procédure de l'héroïne qui va voir le médecin qui lui dit qu'ils ont presque aucune chance d'avoir un bébé. Enfin moi il y a quelques moments rigolos où il y a de l'humour mais vraiment sinon j'étais plus triste pour eux et j'ai trouvé ça plus on est presque en train de rire d'un drame, je sais pas trop. Ça m'a un peu Pour le coup, c'est une série anglaise, mais moi, elle m'a plus mis mal à l'aise qu'autre chose, tu vois, j'étais... Ouais. Et pour le coup, les 30 minutes, c'est une série qui fait 30 minutes. On a vu les deux premiers épisodes et je les ai vraiment sentis passer, quoi. Autant ouais. La première série, c'est passé comme une lettre à la poste, là, j'étais en mode, bon, bah, c'est quand la prochaine, tu vois, next.
C'est une série, c'est presque un drame.
Ouais, c'est ça.
Avec des blagues. Et c'est assez dommage. Ça veut raconter des vraies choses, mais ça aborde un aspect comédie qui n'est pas très réussi. Et du coup, ça se foire un peu dans ses objectifs, j'ai trouvé.
Et le dernier.
Mais on va parler d'un autre rendez-vous que j'aurais bien aimé manquer.
Mais non.
Il s'agit de Rictus, une série française cette fois, qui est sortie en 2023, qui compte 9 épisodes de 26
minutes. 9 épisodes, c'est énorme.
C'est très très long, hein, c'est beaucoup trop. Hein.
Oh là là.
On en a vu deux. C'est créé par Arnaud Malherbe et Marion Festreit. C'est réalisé par Arnaud Malherbe et... C'est diffusé ou ce sera diffusé en France sur OCS.
Non, c'est pas, il y a pas de date pour le moment.
Ok.
Du coup, et si nous n'avions plus le droit de rire, le point de départ réjouissant de cette comédie dystopique avec Fred Testo en contrôleur du rire. Alors, de mon point de vue, parce qu'Emilien va pas du tout être d'accord, je pense que en fait, ils utilisent vraiment le genre de la dystopie pour faire ce qu'on fait habituellement. Ça veut dire montrer quelque chose qui est négatif et montrer en quoi ça fait ressortir des choses négatives chez nous. Enfin, comment vous dire ? Vous prenez une société matriarcale, vous expliquez en gros que c'est comme la société patriarcale, ça serait aussi mal, donc ça fait ressortir les choses de notre société patriarcale et en même temps, voilà, ça montre qu'il faut être solidaire entre les femmes ou ce genre de trucs. Là, on est un peu pareil. On vous dit, c'est une société où il faut pas rire. On vous dit des choses comme... Alors attendez, je reprends mes notes. Avant, tous les gens qui étaient différents, on se moquait d'eux. Et ils sont en mode, voilà, on se moquait de toutes ces personnes. Donc maintenant, on ne se moque plus de personnes car on ne rigole plus. Et il y a beaucoup d'autres règles dans cette société, comme le fait qu'il ne faut pas représenter les humains car on ne veut offenser personne. En fait, toutes ces règles ultra strictes sont un peu pour nous renvoyer à la tronche, clairement. On peut plus rire de rien, qu'on entend souvent aujourd'hui parce que, bah... C'est un peu, voilà, maintenant nous on essaie d'être éveillés, on n'a peut-être pas envie de se moquer de plein de choses qui nous paraissent difficiles. Et donc la série, elle part de ce truc-là, mais on a vu deux épisodes, donc je pense potentiellement que ça va évoluer et qu'en gros elle partira dans quelque chose de plus positif, en mode, je vois bien qu'Emilien ne m'écoute plus.
Pas du tout, je te laisse parler parce que moi j'ai un avis... Finalement, qui se rejoint un peu, mais qui est beaucoup plus dur, j'ai envie de dire, parce que j'ai passé un mauvais moment devant cette série. J'y suis arrivé avec un bon enthousiasme, parce que j'aime bien Fred Testo.
Ah, ça, par contre, on peut pas lui mentir, ses têtes sont incroyables.
Ah, mais par contre, il est très drôle
en fait,
dans
ça.
Son jeu. Son jeu est très drôle, c'est l'écriture qui me révulse.
Je pense que les choses les plus drôles sont les jeux des acteurs, mais ouais, je comprends que tu puisses pas aimer.
Bah, du coup, moi, j'ai détesté. Parce qu'en en fait, au bout de 3-4 minutes, il y a une réplique qui présente tout le plot de la série. Avant, quand on pouvait se moquer des handicapés, voilà, ça dit un truc comme ça. Et là, je comprends où va la série. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne peux plus me marrer, je ne peux plus cautionner une série qui est autant réac, qui est boomer, et surtout qui s'invente des problèmes qui n'existent pas. Personne n'a dit « il ne faut plus rire ». Personne n'a dit ça, personne n'a dit l'humour c'est mal.
Il n'a pas compris que ça allait...
J'espère de tout mon cœur et peut-être que la curiosité fera que je donnerai une chance à cette série. Mais pour l'instant, c'est peut-être la limite des festivals où on voit que deux épisodes. Là pour l'instant on nous a présenté une série qui est complètement boomer et donneuse de leçons j'ai trouvé à nous faire dire vous avez rien compris en fait quand on se moque de tout le monde et ben c'est beaucoup mieux. Et qui a un côté presque malsain, où on nous montre un petit garçon qui est en plus adorable, qui est absolument trop mignon, qu'on maltraite avec un espèce de truc de casque, très, du coup maltraitant, anti-rire, et il nous fait de la peine, il nous brise le cœur. Et dans ses rêves, il rigole pour nous dire, vous voyez, en fait, même instinctivement, les enfants veulent rigoler. Le rire, ça fait partie de l'humanité. Et ça m'énerve quand on fait ça parce que, voilà... Personne n'a dit qu'il ne fallait pas rire. Et
trop énervé.
Mais non, j'essaie de pas m'énerver. Et en plus, En plus, je trouve que la série est presque anti-woke. Alors après, je déteste ces mots-là parce qu'ils ont été complètement galvaudés, mais à dire il ne faut exclure personne, il faut être dans la bienveillance. Mais ça le fait très mal parce que, comme on le disait, quand tu veux peindre un monde ultra inclusif, et bah, sois inclusif dans tes propos.
Mais c'est le but de la série.
Et il n'y a aucune, et y a aucune parole qui est inclusive. On continue d'utiliser des...
Toi, ça te choque pas que dans une série où on te dit il faut offenser personne, on met un casque de torture à un gamin sur sa tête?
Parce qu'on veut nous faire croire que la cancel culture en arriverait à ses extrémités. Pour moi, je vois la série qui essaie de dire ça.
Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois en mode, même dans un monde où tu veux offenser personne, ça offenserait des gens.
On va s'arrêter là-dessus. On se donne rendez-vous dans l'année, du coup, pour parler de la fin de cette série. Parce que vraiment, moi, je la regarderai.
Peut-être qu'on aura plus envie de la regarder.
Je la regarderai pour voir jusqu'où ça va.
Et donc, sur une planète truffée de réacteurs nucléaires, avec la dangerosité qu'on peut voir là dans la série, est-ce que c'est bien raisonnable? Il me semble que la série pose cette question et que la situation en Ukraine aujourd'hui devrait rallumer cette petite inquiétude en Ukraine, qui devrait être une grande inquiétude.
Plus tard dans la journée, on s'est rendu à une conférence.
Une heure plus tard.
Oh là là, mais vraiment, il y a une faille temporelle à Lille. Le temps n'a plus aucune valeur. On est allé voir à l'UGC une conférence avec Cyril Dion qui avait pour thématique « Que peuvent les séries pour l'écologie ?» Puisque Cyril Dion, pour les personnes qui ne le connaissent pas, est un... il a 1000 casquettes. Il est poète,
écrivain.
Il est écrivain, réalisateur et surtout militant
activiste.
Écologiste, lanceur d'alerte. Il est pas tant activiste, il est plus
militant. Il était là pour nous annoncer également qu'il allait travailler sur une série qui allait sortir dans plusieurs années, en 2025 environ, donc vraiment pas demain, qui s'appelait « We Could Be Heroes ». Donc ça sera une série d'anticipation qui sera en 3 épisodes, si j'ai bien compris. Et en gros, le sous-titre de cette série sera « Le jour de la révolution, de quel côté serez-vous ?» Donc au niveau du schéma de la conférence, on est vraiment sur l'interlocutrice qui posait des questions, bien évidemment, et avec des bouts d'extraits de séries qui étaient projetés et on rapportait ces extraits à des questions plus ou moins... typique et intéressante. Là où la conférence était intéressante, c'était de prendre le contre-pied en essayant peut-être pour une fois de montrer des histoires où ça se passerait bien. Et moi, j'étais plutôt d'accord avec ça parce que en fait, Cyril Dion disait que les scénaristes et les personnes qui font des séries ont une responsabilité quand ils racontent des histoires. Et souvent, on l'oublie. Pareil dans les films. On a l'impression qu'en gros on peut dire et raconter ce qu'on veut, mais moi je suis pas très d'accord avec ça, dans le sens où ça m'a vraiment fait écho avec Airstopper. Quand Airstopper était sorti, tout le monde a salué cette série parce que c'était enfin une série avec des personnes LGBTQIA+, qui étaient dans un bon mood en fait, et il n'y a pas de drame, il n'y a rien de super négatif. Et en fait, c'est peut-être bien d'avoir ce genre de série. Donc là, on est un peu dans le même système avec l'écologie. Peut-être qu'à force de montrer des choses genre « Ok, il y a un problème, on va essayer de le résoudre tous ensemble, de trouver une solution tous ensemble au lieu de trouver une solution tout seul. » Peut-être que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et survivre aussi. Parce que c'est ça le plus important. Peut-être qu'au lieu de penser qu'à sa gueule et essayer d'y aller tous ensemble, on va réussir à s'en sortir. Et c'était un peu le message qu'il a essayé de faire passer pendant toute sa conférence. Et moi, j'étais vraiment scotchée à ses mots. C'est une personne très intelligente qui a parlé de beaucoup de philosophes, de beaucoup de personnes avec des noms que j'ai notés, des citations que j'ai notées. Et cette phrase aussi, l'autonomie est une façon de construire sa liberté. J'ai trouvé cette phrase incroyable. Et c'est vrai, en fait, parce que dans son exposé, il disait que la servitude ne va pas avec l'autonomie et qu'actuellement, on est dans un système de servitude parce qu'on est obligé de gagner de l'argent, donc obligé de travailler, et que les patrons ont forcément une emprise sur nous, alors que forcément, si on était en autonomie, on aurait pu cette servitude et on se sentirait libre. Et également, la liberté va également avec la démocratie. Donc aujourd'hui, notre système de servitude ne va pas ultra bien avec la démocratie, ce qui prouve également ce qui se passe en ce moment dans la rue. Il n'a pas pu s'empêcher d'en parler, mais en même temps, aujourd'hui, c'était jour de grève, il y avait du monde dans la rue à Lille aussi. Et c'était forcément qu'il allait en parler, il a eu raison parce que, vu la situation. Et moi, j'ai trouvé qu'en plus, son intervention n'était pas énervée, il disait des choses cohérentes, vraies, et c'était vraiment trop cool.
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Cyril Dion. Je trouve que c'est un incroyable vulgarisateur de concepts et un formidable partageur
orateur
déjà, et partageur d'infos, d'idées. Et en plus, il a vachement bien joué le jeu de Sérimania. Il n'est pas arrivé en mode « moi, je parle d'écologie ». Il a joué le jeu de réagir et de rebondir à l'exercice des extraits des séries. Donc ça, c'était plutôt cool et c'était hyper cohérent du coup. Et ça montrait la puissance des fictions, comme tu l'as dit. Donc si on nous montre plutôt des choses positives, eh ben, ça va nous donner plus d'espoir en l'avenir. Et c'est vrai que c'est peut-être une super réponse à l'éco-anxiété.
Ouais, il a dit cette phrase qui disait « peut-être que ça serait pas mal de mettre en scène un monde soutenable ». Franchement, oui, voilà. Je trouve que cette phrase dit un peu tout.
Donc c'était évidemment hyper intéressant. Et si je peux conclure comme ça, je dirais que si vous êtes sensible à ces sujets-là et ou que vous êtes curieux, curieuse de ces sujets-là, Cyril Dion est une super porte d'entrée pour comprendre les choses. Enfin, je pense qu'il y a des tonnes et des tonnes de podcasts, de vidéos sur YouTube où il parle. Il y a même à la télé où il parle. Il y a un film que je n'ai pas vu, mais qu'il faudra vraiment que je rattrape un jour, c'est « Demain ». Ce qui paraît, qui est un film formidable. Il y a Animal aussi qui est sorti l'année dernière, qui m'a fait pleurer.
Et sa série qui arrive en 2025.
C'est peut-être le fin mot de cette histoire.
Oui, peut-être.
Et enfin, pour terminer ce jeudi très rempli, on a été voir une petite conférence qui s'appelle Les génériques de séries.
J'ai les noms si tu veux.
Bah vas-y, je te laisse les citer.
Alors, Yuxek, Yoel Larmor, Loïc Dury, compositeur de Cédric Clapiche, si on ne l'avait pas compris, et Élise Louguerne. Je vous dis si on ne l'avait pas compris parce que je pense que j'ai entendu le nom de Clapiche au moins une cinquantaine de fois pendant cette conférence qui a duré une heure et demie, qui était animée par Laurent Cochini de Sixième Son. J'ai adoré l'intervention de Yoel. Je l'ai trouvée super intéressante. Elle m'a super plu. Elle avait l'air très amusante comme fille. Et vraiment très, très cool. Yuzek, lui, pour le coup, il m'a un peu fait penser au mec un peu blasé, tu vois, mais vraiment très cool aussi. Tu sens que des fois, il fait des choses, mais qu'il ne pensait pas que ça allait avoir autant de succès comme son générique en thérapie. Mais il est un peu déçu du coup maintenant qu'on lui demande que du piano. Enfin, ça m'a fait un peu rire. Il a raison après.
Parce qu'il vient de l'électro.
Ouais, il fait de l'électro à la base. En fait, il a un Spotify et tout si vous voulez aller écouter ce qu'il fait. Et j'ai aussi également adoré les interventions de Élise Lurgen, du coup la superviseuse musicale, qui se connaissent tous, donc ils ont l'habitude de travailler tous ensemble aussi, donc c'était plutôt cool, ça rebondissait, il se passait le micro, elle a travaillé sur En Thérapie, et donc voilà, avec Yuzek, ils ont pu échanger là-dessus, c'était vraiment très très intéressant. Et puis il y avait Loïc Dury, compositeur de Cédric Clapiche, si vous n'avez pas suivi, et
qui a en bonhomme blanc de 50 ans.
C'était vraiment compliqué. Mais à côté de ça, tu vois, les autres, ils ont eu des formations musicales, ils ont toujours voulu faire ça. Ils ont dit eux-mêmes que eux, ils avaient proposé direct de moi, je veux faire des musiques pour des films ou pour des séries. Et je trouvais forcément que ce qu'il racontait était vachement plus intéressant. Ainsi que la superviseuse musicale, un métier très très intéressant, qui fait le lien avec les réalisateurs, les producteurs, les compositeurs. Moi, c'est le genre de truc qui m'intéresse vraiment. J'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé certaines interventions. Il y a du plus, il y a du moins, quoi, comme tout.
C'est tout bon pour ce jeudi ?
Oui.
À demain.
T'es très connu pour tes arrangements.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce métier-là dans toute la
situation ? Alors, dans ce qui concerne la musique à l'image, je pense qu'on parle plus d'orchestration pour le coup, qui est vraiment un métier hyper important et c'est très cool quand on est compositeur et qu'on peut le faire. Et après, le métier d'orchestrateur en soi, c'est hyper passionnant. C'est surtout aujourd'hui, on a une ère où on crée des démos de films avec des instruments logiciels. Et on appuie vraiment sur un bouton et on a tout un orchestre symphonique qui sonne. Donc on fait la musique de son film, tout est magnifique, ça sonne énorme et tout. Mais après en studio, il faut faire les partitions en fait pour 50-60 personnes. Et l'orchestrateur, il va récupérer la bande démo du coup. compositeur, il va tout écouter et il va dire ok, donc ça va être trois flûtes, ça va être quatre violons, ça va être des timbales, là on va plus faire des cordes graves, etc. Donc c'est un métier qui est vraiment super important et il y a certains cas où l'orchestrateur va carrément donner la couleur du film.
Et c'est le dernier bonjour de Sérimania puisqu'on est vendredi 24 mars. On a regardé trois séries pour cette dernière journée de festival. On va commencer sans plus attendre par la première série qui s'appelle Asper Girl. C'était en compétition française. Ce sera une série dispo sur OCS à partir du 6 avril. Cette fois, on en a eu la confirmation. C'est 10 épisodes de 22 minutes. On a le droit de voir les 4 premiers. C'est créé par Judith Godino et Adrien Cousin. Et c'est réalisé par Lola Roqueplot. Et est-ce que Mathilde, comme d'habitude, tu veux nous raconter l'histoire ?
Oui. Lorsque Louison et son fils sont diagnostiqués d'un trouble du spectre de l'autisme, sa capacité à s'occuper de lui est remise en question. Ce portrait drôle et touchant d'un duo mère-fils est un appel à la bienveillance et à l'acceptation des différences.
Est-ce que tu veux enchaîner en plus avec ton avis ?
Alors, j'ai trouvé que c'était bien fait. Il y a plein de citations dans tous les épisodes qu'on a vus. Il y en a une par épisode. La première, c'est « Normal, c'est quand personne te regarde ». Elle oui. représente bien la situation.
C'est la plus jolie citation.
Ouais. En fait, cette série, elle m'a beaucoup émue. Le moment où Louison et son fils sont diagnostiqués sur le spectre de l'autisme est vraiment très émouvant. Et même son rapport aux autres, son rapport aux choses. Certes, il y a des ressorts comiques dans la série, mais je trouve que c'est pas vraiment une série comique. En fait, je trouve que, je sais pas comment expliquer, mais elle m'a beaucoup émue et j'ai beaucoup aimé. J'ai failli pleurer chaque épisode. Je pleure facilement. Il y a des choses au niveau de la mise en scène qui sont très bien. Par exemple, quand elle est devant cette psychologue qui la diagnostique, on voit apparaître à plusieurs endroits sur l'écran des arcs-en-ciel, en fait. Et en fait, cet arc-en-ciel ou ces spectres, en fait, peuvent représenter bien le spectre de l'autisme, je trouve. Et je trouvais ça plutôt joli. Après, j'aime bien aussi ce que ça raconte sur l'autisme, le fait que les autres se rendent pas toujours compte de ce qu'est l'autisme, que ça soit les assistants sociaux avec qui elle parle, que ça soit son patron au boulot, que ça soit son mari, enfin son ex-mari avec qui elle entretient toujours une relation très particulière. Tous ces gens, en fait, ne comprennent pas réellement ce qui se passe dans sa tête et également dans la tête de son fils. Et moi, j'ai beaucoup aimé.
Moi, c'est mon coup de cœur du festival, finalement, maintenant qu'on a tout vu. J'anticipe un peu le bilan. J'ai eu aussi les larmes à chaque épisode. J'ai beaucoup aimé le message, bien sûr. Et la série, plus particulièrement, cherche à mettre en lumière, pour une fois, les femmes et les mères atteintes de troubles du spectre de l'autisme. Parce que d'habitude, finalement, les séries les plus connues qui sont Atypical et Good Doctor, finalement, ce sont des autistes garçons.
Ce sont des hommes, ouais.
Donc voilà, Louison et Guilhem sont super attachantes, vraiment beaucoup.
C'est la musique de la série.
Oui, j'allais en parler.
Merci, quoi.
J'allais en parler, la musique de Prudence.
Elle apporte vraiment quelque chose à la série.
Ça apporte une surcouche en plus de douceur. En fait, cette série, c'est un peu genre une brioche moelleuse sur laquelle on met de la pâte à tartiner, puis après on remet de la pâte à tartiner. Et en fait, ça fait vraiment un goûter d'une douceur incroyable. Je pense que ça sera une de mes séries doudou. Parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très, très, très bien.
Et en même temps, elle raconte des choses difficiles. Oui. On ne va pas se mentir. Elle parle quand même de personnes qui ne comprennent pas les autres.
Mais la preuve qu'on peut raconter des choses dures d'une très jolie manière aussi.
Oui, sans violence.
Il n'y a aucune violence. Enfin, vraiment. Il y a des violences, mais c'est pas, on n'en ressort pas en colère ou... Parce qu'il y a ces petites pointes d'humour qui font que ça ne plombe pas.
C'est bien, tu parles de colère. Je pense que la série d'après peut enchaîner sur cette thématique de colère.
On va enchaîner avec de la colère. puisqu'on va parler de The Power, une série Prime Video qui concourait à la compétition internationale. C'est 10 épisodes de 60 minutes. On a pu voir les deux premiers. C'est une série américaine et britannique. C'est créé par Naomi Alderman et c'est réalisé par Reed Morano. Et c'est une adaptation d'un roman dont j'ai oublié le nom de l'autrice.
De Naomi Alderman.
Ah bah c'est elle qui a créé la série aussi.
Oui, c'est la même personne. Ah bah c'est cool. Pour ça que bah, je peux vous lire le petit topo que j'ai. Par les productrices de Chernobyl et The Baby, cette série SF féministe adaptée du roman de Naomi Alderman imagine une société au rapport de force femme-homme inversé lorsque des arcs électriques jaillissent des doigts des adolescentes du monde entier. Alors ça a l'air un peu chelou comme ça, on va pas se mentir, le résumé est un peu étrange. En tout cas, c'était la série que j'attendais le plus durant le festival.
Moi aussi, je crois.
Et j'avais peur d'être déçue parce que bah, souvent, quand on attend beaucoup, tu peux avoir un espèce de goût amer dans la bouche ou être déçue. Et c'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le fait qu'on suive plusieurs femmes, des jeunes femmes jeunes, et on voit ce pouvoir en fait naître en elles et comment elles s'en emparent pour... Bah, soit pour être une adolescente qui s'amuse un peu comme Ali, soit pour, comme Roxy, essayer de se défendre face à des personnes qui lui veulent du mal. Enfin, elles vont tous avoir un pouvoir, ce pouvoir d'électricité qui naît en elles, et elles vont s'en servir dans leur vie de tous les jours pour prendre le pouvoir, du coup, sur des situations dans lesquelles elles étaient jusqu'à maintenant. Elles reprennent leurs droits, si je peux dire. Et c'est une série très... belle. J'ai beaucoup aimé la musique aussi, elle apporte beaucoup. Et visuellement, j'ai adoré. Il y a des plans très contemplatifs, très lents. Il y a des choses vraiment très bien. Et j'ai hâte de voir la suite, de voir comment ça va tourner. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très politique aussi comme série, on ne va pas
carrément,
se mentir.
Évidemment.
Et ouais, c'est vraiment... Moi, j'ai eu un coup de cœur également pour cette série que j'ai vraiment adorée. Je sais pas si tu as des choses à rajouter.
Moi, je pourrais juste rajouter que c'est une série qui m'a beaucoup fait penser dans la forme à Heroes, dont j'étais très 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 fan quand j'étais ado, où on découvre des inconnus aux quatre coins du monde qui se découvrent des pouvoirs et on les voit apprendre à s'en servir. Et puis ensuite, on découvre comment ces personnes s'en servent dans leur vie, comme tu l'as dit, dans la musique aussi, l'apport de la musique.
Ouais, moi, j'ai vraiment mis la musique cœur, tu vois. Donc,
ouais, bah dans Heroes, c'était pareil. C'était la musique était toujours un peu flottante et venait illustrer entre chaque scène. Enfin, c'était vraiment cool. Et puis, les plans contemplatifs sont très beaux. C'est une série qui est très, 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 très belle dans sa mise en scène.
Ouais, c'est super esthétique. Et si je devais finir, il y a cette phrase qui dit « Toute révolution commence par une étincelle ». Et voilà.
Et les étincelles, bien sûr.
Ouais. Et j'aime bien aussi que le fait qu'on insiste sur ce pouvoir est naturel. C'est pas quelque chose, c'est pas un super pouvoir. En fait, on insiste sur le fait que les anguilles dans la nature ont ce pouvoir, se servent de ce pouvoir pour manipuler les autres êtres vivants. Du coup, il y a quelque chose de très spirituel en mode vous avez été bafoué. La nature vous offre de pouvoir vous défendre.
C'est ça.
Et je trouve que c'est très poétique, très beau. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému aussi dans cette série.
Et on va terminer avec la dernière série qu'on a vue. Elle clôturait ce festival 2023. C'est Transatlantique, une série Netflix qui sera diffusée en 2023, en mois d'avril. C'est 7 épisodes de 45 minutes. On en a vu 2. C'est une série créée par Anna Winger et Daniel Handler, et c'est réalisé par Stéphanie Chua et Véronique Raymond. De quoi ça parle ?
Alors, c'est un hommage flamboyant et émouvant aux résistants ayant organisé la fuite de milliers de juifs en 1940. Parlons de la série en elle-même. J'ai beaucoup aimé, par contre... Enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ça sent que c'est une série Netflix.
Il y a la patte Netflix.
Ouais, il y a cette patte Netflix. On parlait de Power, The Power juste avant. Vraiment, The Power a quelque chose d'artistique, de très poussé.
Et ça, c'est en train de devenir une patte prime, ouais. D'avoir une esthétisation des séries.
Et du coup, j'ai beaucoup aimé la série de Netflix, hein, y a aucun souci. J'ai vraiment beaucoup aimé Transatlantique. Les acteurs sont ultra bons. Ce que ça raconte, c'est quand même... Enfin, tu peux pas ne pas être touché par cette série. Il y a des passages incroyables. En plus de ça, cette série parle de féminisme grâce à son héroïne. Elle aborde de ça. Elle parle aussi de la communauté LGBT. Quand même, c'était pas du tout bien vu à l'époque, mais voilà, évidemment, on est en 1940, donc pas très étonnant. C'est joli à regarder. Il n'y a pas vraiment de patte esthétique, je dirais. Au niveau des costumes, par contre, on est vraiment très très beaux costumes. J'aime beaucoup. Mais oui. Voilà, c'est plutôt en mode série d'époque sur l'esthétisation. Mais il n'y a pas de choses... ça ne m'a pas vraiment sauté aux yeux, tu vois, à l'image. Je ne me suis pas dit « Ah oui, il y a ça qui est incroyable. »
Non, non. Ce n'était pas, la priorité de la série, ouais. D'en faire une très belle série. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler. J'ai vu Transatlantique, je me suis dit bon, c'est passé sur un bateau, et en fait le bateau disparaît, on ne monte jamais sur le bateau, le bateau disparaît très très tôt dans la série. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment. J'aime bien les fictions qui parlent, en l'occurrence pas vraiment une fiction, en plus c'est inspiré de faits réels. J'aime bien quand on présente des choses qui se passent pendant cette période là parce qu'elle est toujours riche d'enseignements. On en a besoin plus que jamais. J'ai pas grand chose de plus à dire. C'était une bonne. C'était pas la série la plus joyeuse pour clôturer le festival, mais c'était une très bonne série. C'était une valeur sûre qu'on savait que le festival allait pas trop se planter en présentant cette série pour finir.
Ça avait du sens.
Maintenant qu'on a terminé de vous raconter toutes les séries qu'on a vues, est-ce que tu veux énumérer toutes les récompenses ? Parce qu'évidemment, Sérimania est aussi une compétition de séries.
Ouais, alors avant tout, juste pour revenir comme ça, la cérémonie de clôture était présentée par Alex Ramirez, que je connaissais pas du tout en tant qu'humoriste, et vraiment incroyable.
Ah, il envoie, il fait pas semblant.
Non, j'ai été bouche bée pendant tout le truc. Là, vraiment, il y a pas une de ces blagues auxquelles j'ai pas rigolé. En tout cas, il nous écrit une histoire qui fonctionne.
Ouais.
Et je trouvais ça cool.
Et alors ?
Le résultat. On va essayer d'aller vite sur les remises de prix parce qu'au final, la petite surprise de la soirée, la plupart des prix qui ont été remis à des séries qu'on n'avait pas vues. Comme quoi, on a le pif, hein, vraiment.
C'est vraiment pas de chance.
Le pif était présent, pas du tout. Alors, Panorama International. Le prix étudiant a été décerné à Funny Woman. Le meilleur acteur a été décerné pour la série Inner's Most. C'était à Eran Naïm. Meilleure actrice dans la série Bodies That Works pour... alors, c'est bizarre, c'est un prix meilleure actrice, mais il est décerné à deux actrices.
Ah oui, ça, c'était un peu bizarre.
Rotem Sela et Gael Malika. J'ai pas compris non plus. Vraiment, il y a la moitié. En fait, je me rends compte que j'étais là. Mais j'étais genre, oh, c'est bien, bravo, mais... meilleure réalisation pour Tengo que morir todas las noches. Meilleure série pour Blackwater. Et là, on passe à compétition comique.
Bah voilà.
La compétition comique, il n'y a qu'un prix qui a été rendu. Voilà, c'est le prix étudiant.
Les jeunes qui ont le droit de rire.
C'est ça. Alors, Rictus a eu un prix comique.
Je me suis crispé à ce moment-là, ouais. Je vous l'avoue.
Je vous avoue que les gens, quand ils sont montés sur scène et qu'ils ont dit pourquoi ils avaient fait la série, on s'est encore plus crispé.
Ça m'a donné raison.
Meilleure compétition format court a été décernée à Autant de Defensa. Compétition française. Alors, le meilleur acteur, là, une série qu'on avait vue, donc, a été décernée pour la série Asperger pour l'acteur Karel Braun. La meilleure actrice a été remise à Clémentine Célarier pour Les Randonneuses. Meilleure musique originale pour Splits, qu'on voulait également aller voir, mais qui n'est pas rentrée dans le programme. Et meilleure série pour Sous Contrôle, qu'on n'a pas vue en projection, mais qu'on a vue quand même, grâce à la plateforme de Sérimania.
Oui,
est très intéressante et qu'on avait beaucoup aimé aussi.
Ouais.
Alors après, on a le prix du public. Le prix du public a été décerné à la série Little Bird. Compétition internationale. Le meilleur acteur a été décerné à Michael Chin. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, il était très touchant.
Dans Best Interest, je vais y arriver, j'adore cet acteur. Voilà, je vous le dis. Oui. Meilleure actrice pour Margot Bonchillon dans De Grâce. Et le grand prix des séries a été décerné à The Actor. Voilà, c'était le panel, c'était tout ce qui s'est passé à Sérimania. Moi, je préférais faire un petit bilan de nous.
Vas-y, je t'en prie.
Parce que c'est bien de faire le bilan des... Ouais, alors, ils ont élu ça. Bah, écoutez, faisons-le, nous aussi. Alors, durant ces 5 jours de festival à Lille...
On a peu dormi.
Voilà. On a eu la chance d'assister, de découvrir 11 nouvelles séries.
Et là, c'est mon angoisse parce que ça fait 11 séries en cours. Et je déteste avoir des séries en cours. Ouais. Je veux finir les séries avant d'en commencer
les
d'autres.
Les séries finies sont Noli.
Donc je vis dans mon angoisse.
Les séries finies, c'était Noli et One of the Boys. C'était bien ça. Et ce qui représente un total de 30 épisodes.
Pas mal.
Et on a également assisté à 5 conférences. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant le festival. En plus de ça, parce qu'on ne s'arrêtait jamais, on a pu regarder également une série en plus.
Oui.
Sur la plateforme, et on a également assisté à une conférence en plus qui était la conférence sur les swaps auquel on n'avait pas pu assister parce que moi je travaillais ce jour-là.
On pouvait pas arriver dès le premier jour.
Et j'ai fait la liste des séries que j'aimerais bien découvrir qui étaient également présentes au festival, ça en fait 15 quand même. Le programme était vraiment très 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 conséquent, mais voilà, ça fait une grosse semaine. Je pense que j'avais pas mangé autant de séries en si peu de temps depuis très longtemps. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super semaine. Oui. J'ai beaucoup aimé l'accueil. Les bénévoles de Sérimania étaient vraiment super sympas.
Cœur sur les bénévoles.
Ouais, très très bon accueil. Et moi j'ai kiffé. Et c'est tout gratuit, c'est quand même incroyable.
Et puis Lille est une super ville.
On se retrouve quand même pour le récapito de ce mois-ci, hein, n'oubliez pas. Moi j'ai déjà vu plein de trucs en plus. En plus de ces 11 séries, les gars, j'en ai vu plein d'autres.
Comme d'habitude, vous pouvez nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes et tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, surtout Insta, et sur le blog plaid.fr. On espère que ce hors-série vous a plu. Des bisous. On va aller dormir maintenant.
Ah oui, dodo.
Sérieusement, dormir.
Il nous reste 24 heures pour récupérer avant la reprise.
Et on change d'heure ce week-end, donc on se fait niquer.
Allez, bisous. Nothing left.